bien, on va reprendre après cette petite pause. Pour la première conférence de cette journée, où j'ai le grand plaisir d'accueillir Sakina Emsa et Hélène de la Mourère. Sakina, qu'on ne présente presque plus, mais tout de même que je vais tout de même présenter, qui a créé cette marque éponyme en 2002, il me semble déjà, c'est ça. Donc tu as bientôt fêté les 20 ans de cette marque et tu as vraiment été une précurseuse de la mode, je dirais, engagée sur des questions sociales et solidaires. Et tu vas nous expliquer un peu le projet et ta marque. Et puis Hélène de la Mourère, tu as créé la marque Bilhom, qui est plutôt centrée sur une démarche de fabrication d'accessoires upcyclés. Aussi parmi les premières marques à avoir développé ce type de démarche, et ta marque existe depuis 2005. Et ensuite, on accueillera Isabelle, qui est à nouveau, qui va nous faire une présentation plus détaillée du triathlon de la mode et du concours auquel vous allez participer. Alors Sakina, mais je te laisse la parole pour présenter ton projet et ta marque.
Super. Alors, il faut. Alors, je crois que normalement, je dois passer un truc. Je regarde parce que je suis vraiment pas douée. Bonjour tout le monde. C'est super sympa d'être là un lundi matin. Vous êtes trop classe. Un grand merci. Ah ben génial. Alors, en gros, donc moi je suis créatrice de mode. J'ai démarré ma marque en 2002, mais en fait j'étais assez dingue pour sortir de l'école et monter une marque. Donc j'ai commencé en 98, et où à l'époque ce qui m'intéressait c'était de réfléchir vraiment au niveau écologique. Donc j'avais mis mes tissus dans la terre, j'ai enterré mes tissus, parce que je savais que la matière c'était vraiment une vraie question par rapport à tout l'impact qu'on pouvait avoir sur la réalisation d'une collection. Donc ma marque s'appelle Sakina Emsa. Le principe, c'est d'allier social, économique et puis évidemment mode. Et donc du coup, en termes de mode, nous, on s'est vraiment positionné sur quelque chose dont vous allez beaucoup entendre parler aujourd'hui, puisqu'on est enfin content de voir qu'il va y avoir cette fameuse loi AGEC. Et moi, en fait, quand j'ai démarré dans une cité en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3. À côté, pas loin à Bagnolet, et où ce qui m'intéressait, c'était de dire qu'on est dans une société où, quand on sort de l'école, les défilés, le modèle qu'on nous montre, c'est des mannequins qui font 1m80, qui sont toutes fines, qui sont toutes un petit peu les mêmes, etc. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'abord de réfléchir sur cette notion de corps, sur cette notion de féminité, sur cette notion aussi de sortir un peu de ce stéréotype que la mode voulait bien nous donner. Et donc, tout de suite, quand j'ai commencé à faire mes défilés, je faisais défiler des femmes, ce que j'appelais les mamas des quartiers et les princesses du 9-3. Donc, voilà, des femmes mais qui ont une beauté incroyable et qui se mésestimaient parce qu'elles pensaient que voilà, la mode, c'était exactement ça. Donc, on a commencé par mettre cette histoire-là. Et puis ensuite, on a mis une force très militante. Tout de suite, on est allé voir les films de Michael Moore. Alors quand je dis on, c'est que nous on est une marque, mais on faisait des workshops tout le temps. On faisait des workshops le mercredi, c'était les enfants, et le samedi les ados et les parents. Donc dans notre studio, on était dans une tour en Seine-Saint-Denis, et les gens venaient nous voir le mercredi et le samedi où on montrait la mode. Et donc du coup, quand je dis on, c'était d'aller voir les films de Michael Moore. C'est qui Michael Moore? C'est ce gars qui réalise des films. Je pense à Roger et moi, par exemple. Je crois que c'était avec le PDG de Nike, où il est arrivé chez lui en lui disant « Mais vous voyez cette basket-là, est-ce que vous savez ce qui se passe derrière ? Est-ce que vous savez qui a fabriqué ces vêtements et dans quelles conditions ?» C'est à ce moment-là, et c'était la première fois, grâce à ce film de Michael Moore, que j'apprenais ce que c'était que la traçabilité. Et c'est là où je me suis dit « Non, mais là, il y a un problème. » Et tout de suite, on a commencé à faire des vêtements avec une carte d'identité, le nom, le prénom, la date de naissance et la couturière qui l'a fabriqué. Et là, c'était vraiment très important. Et où, évidemment. Donc, on a essayé de faire une espèce de traçabilité comme ça sur le vêtement. Et puis ensuite, c'est positionner la question sociétale. Parce que qui fait des vêtements? Les vêtements sont faits par des humains. Et en fait, ce sont pour moi les gens de l'ombre qui font la lumière sur le podium. J'ai eu la chance de faire défiler mes collections. Ah, ah ben mince. j'ai appuyé sur le feu d'artifice. Je suis désolée. J'ai eu la chance de faire défiler mes collections sur les, pendant la Fashion Week. Mais en fait, on oubliait vraiment de voir que tout ce savoir-faire, toutes ces belles choses ont été faites par des gens. Alors, il y en a qui fabriquent, il y a des marques qui fabriquent à l'étranger, des marques qui fabriquent en France. Mais il y avait quelque chose qui était très important pour moi. C'est pour ça que j'appelle ça la mode éthique. Pour moi, c'est la mode éclairée. Pourquoi la mode éclairée ? Parce que la France des Lumières ne pouvait pas sortir un projet de mode qui sort de l'obscurantisme. C'est quoi l'obscurantisme pour moi ? C'est la fast fashion. C'est-à-dire, c'est ces collections où les gens qui fabriquent, ils sont sous-payés dans des conditions indignes. Et je pense que quelque chose qui a vraiment fait réfléchir beaucoup de personnes, c'est malheureusement ce qui s'est passé avec le Rana Plaza, où on a eu 1500 ouvrières, dont beaucoup de femmes, qui sont décédées suite à cet écroulement de cet immeuble. Et tout d'un coup, il y a eu une vraie prise de conscience internationale, mais beaucoup d'activistes, de militants comme nous, qui se sont mis à dire « Mais maintenant, il faut que vous racontiez où est-ce que vous avez fait vos vêtements ?»« Who made my clothes ?» Et que la cliente commence à interroger finalement le fabricant. Et bien, tout d'un coup, moi, j'ai eu l'impression... J'ai eu la sensation que ça a beaucoup changé parce que tout d'un coup, les grands donneurs d'ordre réfléchissaient. Alors, il y a encore beaucoup de boulot, mais en tous les cas, pour nous, l'aspect social, l'aspect de ne pas travailler dans l'ombre, c'est-à-dire d'avoir des gens qui travaillent dans des caves, dans des conditions indignes, mais c'est ça la mode éclairée. La mode éclairée, c'est d'éclairer chaque personne sur la chaîne de valeur. Donc, on a monté une entreprise d'insertion par l'activité économique. Et c'est quoi ? En fait, c'est de se dire qu'aujourd'hui en France, on a beaucoup de chance, mais il y a aussi des gens qui sont des réfugiés, des gens qui sont en prison, des gens qui travaillent dans des centres d'aide par le travail parce qu'ils ont des conditions aussi de vie compliquées. Et bien, ces gens-là doivent rentrer dans cette chaîne de valeur et doivent éclairer ce qui se passe sur le podium. Et donc, du coup, nous, on est devenus entreprise d'insertion agréée par l'État en 2008. C'est quoi ? Comment on organise tout ça ? C'est très simple. En fait, on a de la couture et quand quelqu'un rentre chez nous en insertion, elle arrive, on travaille tout de suite sur son parcours d'insertion avec une chargée d'insertion qui est un peu une sorte d'assistante sociale sur le temps de travail qui accompagne les salariés vous avez 2 ans dans notre entreprise, et dans 2 ans, on va vous trouver un travail ailleurs. Et un travail qui sera décent, qui va vous accompagner finalement dans votre histoire personnelle. Et nous, en fait, l'insertion, c'est un sas. Et où ce qui est intéressant, c'est de se dire pour nous, la mode, c'est le désir. La mode, c'est de belles étoffes, c'est des beaux matériaux, c'est de belles histoires. Eh bien, on va insérer des personnes par l'estime de soi, parce que ces personnes vont toucher ces beaux matériaux. Et en fait, c'est quoi ces beaux matériaux ? Nous, depuis... c'est plus officiel depuis 2010, puisqu'on a eu le prix de la Fondation Kering. Et on récupère les tissus. En fait, avant, en 98, on a commencé en récupérant des tissus chez des soldeurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les tissus dormants. On a décidé que tous nos vêtements seront réalisés par des tissus dormants. Et quand on a eu le prix de la Fondation Kering en 2010, j'ai challengé son CEO, François-Henri Pinault, en lui disant, écoutez, vous les brûlez. Là, maintenant, avec la loi AGEC, ils ne vont plus pouvoir. Tant mieux. Mais il faut qu'on trouve... Enfin, nous, en tous les cas, on veut bien faire les poubelles de la haute couture. Donc, on récupère les tissus. Mais qui sont des tissus absolument sublimissimes de chez Saint-Laurent, de chez Balenciaga, du groupe Kering. Et on en fait des vêtements qu'on fait défiler sur le podium. Et notre podium, c'est un podium aussi qui est social, puisqu'on a toujours gardé cette notion de dire on a des gens du quartier qui défilent, avec des mannequins bien sûr, parce que y a des codes, mais surtout... Là, tout à l'heure, je vous parlais de l'insertion, comment ça se passe. Donc, une personne rentre chez nous, on l'accompagne et surtout, on lui trouve un logement parce qu'il y a beaucoup de problématiques logement. On essaie de trouver aussi des problématiques. Par exemple, quand tu es réfugié et que tu arrives, il te faut aussi avoir une CMU pour que tu puisses, au niveau santé, être accompagné. Mais tout ça, nous, on s'en occupe sur le temps de travail. Une entreprise de mode peut aussi réaliser ça. Mais la mode, c'est avant tout le désir. C'est avant tout, alors je fais exprès de parler du produit après, parce que moi j'ai commencé par travailler par l'humain, enfin j'ai fait une école de mode, hein. J'ai pas eu la chance de faire une école de commerce, mais j'ai fait une école de mode, donc le style c'est hyper important, mais l'humain c'est encore plus important. Cette notion de dignité, c'est vraiment quelque chose qui est une base chez nous, c'est notre ADN, si j'ose dire. Et du coup, au niveau du style, ce qu'on aime, c'est de faire un vêtement cool, colorful, graphique, joyeux, qui puisse être porté par une femme et un mec aussi, hein, parce qu'on fait tout pour que ces vêtements soient mixtes et portables. Et en fait, en 2015, on a ouvert un shop, hein, qui s'appelle le Front de Mode, et où l'idée était de représenter dans ce concept store toutes les marques qu'on aime, parce que souvent, alors maintenant on en parle un peu plus, mais quand on allait voir les magasins, les multimarques, ils disaient ah oui, mais la mode éthique, il n'y a pas grand chose, etc. Et en fait, il y avait plein de jolies marques, et on a monté ce magasin avec un manifeste qui s'appelle Pour un écosystème de la mode au 21e siècle. Et ce magasin, son principe, c'était vraiment de montrer qu'on est un mouvement. Que la mode durable, la mode éclairée, la mode éthique, c'est un mouvement et qu'on est beaucoup à travailler et à travailler aussi le style. Et en fait, on a mis en pause ce magasin après le Covid et on revient à nos premières amours qui sont les marques. Et donc, on revient avec une stratégie qui était de travailler avec des collabs. Donc, on a fait une collab avec la marque APC que vous devez connaître, je sais pas, vous connaissez ? Oui, cool. Voilà, donc là, par exemple, avec APC, c'était la collection Covid. Moi, je rencontre Jean Tuitu, je lui dis, voilà, nous, ça faisait un moment qu'on avait envie de bosser ensemble, et là, on s'est dit, mais c'est vrai qu'il y a une collection qui n'a pas pu être commercialisée, mais nous, on a repris toutes ces fringues et on les a retravaillées avec nos mantras à nous, par exemple, « We can remake it if we try », enfin, « Save the planet », enfin, qui sont vraiment des mantras. Nous, on met beaucoup de mots, mais beaucoup de mots qui ont du sens pour nous, parce qu'on pense que même en portant le vêtement, ben, il faut être un activiste. Mais il faut que ce soit joli, mais on est quand même aussi des activistes et que c'est important de faire porter les mots. Donc, on fait une collab avec La Redoute, hein, qui est encore, enfin, vous pouvez aller voir sur les pages, enfin, sur le site de La Redoute, hein, cette collab. Et on travaille aussi en ce moment avec Monoprix. Donc, voilà un petit peu ce qu'on fait. Bon, voilà, je vous montre un petit peu. Je m'en sors très mal sur cette histoire. Alors, je crois que c'est comme ça. Voilà. Voilà. Et donc nous, on est beaucoup en termes de vêtements, on aime bien l'aspect, je vous disais, cool. Faut que ça puisse être portable. Là, par exemple, on a sorti un jogging qui s'appelle Jagger, et où l'idée était de dire, voilà, nous, on adore les joggings, mais comment on peut lui donner un côté un peu chic. Donc on retrouve une espèce de foulard que l'on noue à la cheville avec le bord-côte. Enfin voilà, on essaye à chaque fois d'apporter un petit détail mode. Donc on vous dit aussi, je vous disais qu'on aime bien cette notion de mantra. Ben nous, le féminin, c'est quelque chose dont on n'a jamais eu honte. On trouve que c'est très important, qu'il y a eu des femmes qui se sont battues pour ça et que notre génération, enfin moi je me suis toujours demandé mais à quoi on va servir quand on voit toutes ces femmes qui ont fait MLF, etc. Comment nous, qu'est-ce qu'on apporte nous? Et en fait, nous, dans notre marque, on a beaucoup de mantras, girl gang, wonder womanist. Voilà, donc on est un peu là-dedans et on fait aussi des pulls avec les mantras dont je vous parlais tout à l'heure. Goutte d'or, j'adore parce que on adore ce quartier. C'est un quartier où on s'est installé après la Seine-Saint-Denis. On voulait un quartier qui soit populaire, un quartier politique de la ville, comme on dit, parce qu'on pense que c'est là où on a des choses à faire. Et quand on est arrivé là-bas, on est resté 15 ans et aujourd'hui c'est devenu une coopérative. On est très fiers, mais on a travaillé avec tous les couturiers du quartier, avec tous les gamins du quartier qui faisaient de la mode. Et d'ailleurs, c'est en échangeant avec les gamins qu'on a sorti ce sweat Goutte d'or, j'adore et Barbès, mon amour. Voilà. Et enfin bon, voilà. Donc en gros, voilà. Je sais pas si. Et il y a une chose aussi qui nous tient beaucoup à cœur, et je vais lâcher le micro, c'est que pendant des années, on est allé en Afrique. Parce qu'on trouve que c'est très important dans les pays du Sud. Et que nous, on utilise beaucoup de tissus dormants. On fait aussi de l'upcycling. Mais l'Afrique est devenue un peu la poubelle de l'Europe. Et nous, vraiment, c'est quelque chose qui nous gêne beaucoup. Et on y est allé pour travailler avec des jeunes marques là-bas pendant des années, grâce à l'Institut français. Et on a arrêté, malheureusement, d'aller faire ces formations en Afrique. On est allé aussi dans les favelas au Brésil. Et à un moment donné, on a décidé d'aller en prison. Parce qu'on voulait, enfin, c'était difficile de voyager parce qu'il faut s'occuper quand même d'une marque, hein, c'est une entreprise. Et donc, du coup, depuis quelques années, on va à Fleury-Mérogis et où on va faire une semaine de la mode dans la prison. Et c'est aussi un moment qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'on apprend énormément. Et voilà, donc je promets toujours aux filles que je rencontre, parce qu'on va chez les femmes, de toujours parler quand j'interviens de cette action que je fais en prison parce que c'est une façon aussi de penser à elles et de voir qu'en fait, ces femmes aussi, il y en a quelques-uns qu'on embauche chez nous après. Donc on est très fiers de ça.
Merci. Merci. Merci beaucoup, Sakina, pour cette présentation. C'est vrai que ta marque est vraiment dans une démarche holistique, globale, et puis j'aime beaucoup le fait que tu n'hésites pas, que tu assumes le terme activiste d'engagement, et on voit bien que ça ne sacrifie en rien le style et la création, donc c'est génial. Il y aura quelques temps, je laisserai quelques minutes pour que vous puissiez poser des questions quand même, parce que c'est vraiment l'occasion de pouvoir parler à Sakina et aussi à Hélène de Lamourère. Donc je te laisse présenter ta marque et puis on se prendra quelques minutes pour vos questions.
Ok, merci. Bonjour à tous. Alors, avant toute chose, j'aimerais vraiment remercier chaleureusement, très chaleureusement Isabelle Kay, parce que là, vous avez devant vous la papesse de la mode pour moi et de la mode éthique. Ça fait maintenant... Moi, j'ai démarré ma société il y a 15 ans et c'est Isabelle qui avait créé l'Ethical Fashion Show et qui avait mis l'éclairage sur ces marques éthiques qui, à l'époque, dont on ne parlait pas du tout à l'époque. Donc vraiment, merci et chaleureusement, bravo, bravo pour tout ce que tu fais et ce que tu continues à faire. C'est dingue. Et tu ne prends... Là, je ne prends pas prise sur toi, c'est un truc de dingue. Et puis surtout, ça permet aussi d'avoir des bons amis, puisque nous, on se retrouve toujours autour d'Isa, et ça, c'est chouette aussi. Alors, donc, je me présente, je suis donc Hélène de Lamourère. J'ai lancé Bilhomme il y a maintenant 15 ans. Mais avant Bilhomme, j'étais... Alors, je voudrais faire un petit aparté quand même, puisque je suis devant beaucoup d'étudiants, et ça m'amuse beaucoup de me dire que je viens pas du tout du monde commercial ou de la mode. J'ai fait des études de bio. Et pendant 5-6 ans, j'ai travaillé dans la bio. Et en fait, j'aime bien me dire qu'en 25 ans de parcours professionnel, je suis un peu allée là où les battements de mon cœur me portaient. Et vous me retrouvez là, alors qu'il y a 25 ans, je vendais des produits cosmétiques dans les pharmacies. Et donc, je vous encourage à toujours savoir ce qui bat à l'intérieur, parce que c'est vraiment le meilleur guide que vous puissiez trouver pour avancer, vraiment. Donc, après mes études de bio, je rentre dans une petite boîte de com événementielle extrêmement créative. Et on faisait de l'habillage des monuments parisiens avec une technologie 3M qui venait des États-Unis. Et au moment de la Coupe du Monde en 98, on avait habillé la tour TF1, on habillait les avions d'Air France avec des adhésifs géants, etc. Et surtout, c'est là qu'on a commencé à faire les premières énormes bâches à Paris, telles que celle qui est derrière moi, qui faisait à peu près la taille d'un terrain de tennis. Et... donc par la petite porte dans une boîte d'événementiel et je suis chassée par un très gros groupe qui s'appelle Cara Event, qui est une boîte d'achat média. Et là, je deviens celle que je rêvais d'être, businesswoman. J'avais des super beaux tailleurs, des talons aiguilles. Enfin, j'avais l'impression que le monde était à mes pieds. Et puis 3 ans après, je me retrouve dans l'ascenseur. Je pesais 10 kilos de moins, j'en pouvais plus et j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Et j'ai vraiment eu envie de changer vraiment de vie. Ça n'avait rien à voir avec la boîte dans laquelle j'étais, c'était juste moi qui n'étais plus du tout alignée avec tout ça. Et je réfléchis à ce que je peux faire, j'ai plein d'idées. Il y a une chose qui était certaine, c'est que je voulais vraiment être mon propre patron, ça c'était sûr, j'avais envie de créer. Et je tombe sur une initiative que vous connaissez sûrement, qui avait déjà 10 ans à l'époque, Freitag, qui fait des sacs en bâche de camion. Et je me dis, c'est hallucinant quand même, ces mecs-là font un sac qui est très beau d'ailleurs, solide, hyper bien fait, mais à partir d'un déchet, d'une bâche de camion. C'est canonissime, donc je ne vais pas faire ce qu'ils font. Par contre, je vais faire tout ce qu'ils ne font pas. Je connais très bien le monde de la bâche, puisque j'en ai vendu pendant 5 ou 6 ans, puisque j'étais donc responsable de l'affichage événementiel chez Cara, de la vente de ces grandes bâches. Et puis, il y a peut-être d'autres choses à faire. Et là, je commence à fouiller un peu sur Internet et je me rends compte qu'en fait, il y a plein d'initiatives qui viennent des pays, évidemment, en voie de développement, de récupération de ces toiles publicitaires géantes, donc en Espagne, ou, et puis surtout après, surtout au Brésil, en Inde, etc. Et ces grandes bâches qui sont hyper solides, imperméables, ultra techniques, qui coûtent une fortune à fabriquer, qui consomment une eau et un pétrole de dingue. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas, mais en tout cas, c'est juste indécent ce que ça consomme pour être fabriqué. Et en fait, au bout de 3 jours pour un salon ou un mois ou 6 mois pour des travaux, elles sont, à l'époque en tout cas, elles étaient jetées, elles étaient enfouies, ce qu'il y a de pire, ou incinérées, ce qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, je décide de lancer Bilhomme, une maison de création qui travaille à partir de matières récupérées et de démarrer avec ces toiles publicitaires géantes, puisque je connaissais bien ce monde-là, puisque je l'avais fréquenté pendant une petite dizaine d'années. Donc la marque Bilhomme, c'est quoi? C'est une maison de création qui travaille à partir de matières qui normalement sont jetées. On a démarré avec les toiles publicitaires géantes, parce qu'aujourd'hui on est 12 salariés, enfin 10 salariés et 2 freelances. On a démarré avec les toiles publicitaires géantes, et aujourd'hui on a plus d'une vingtaine de matières que l'on retravaille, vous allez en voir pas mal. Sur à peu près la moitié, on est les premiers à avoir travaillé sur ces matières. Et on fabrique des sacs et des accessoires principalement à 95%. Et il nous arrive de faire des pièces sur mesure. On a eu l'occasion de retravailler des chaises. On fait des tableaux ou des petites pièces qu'on travaille avec des artisans indépendants. Ça, c'est une dimension très importante, l'artisanat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je voulais montrer une vidéo avec le circuit, mais j'ai peur de dépasser. Je veux pas dépasser les temps. Donc, si on a le temps, on la montrera. Mais sinon, sur notre chaîne YouTube, Bilhomme Paris, il y a plein de vidéos qui, en moins de 2 minutes, vous montrent tout le circuit d'une toile. Le circuit, il est très simple. Les toiles arrivent dans notre atelier, les matières d'une manière générale, arrivent dans notre atelier à Choisy-le-Roi, donc à 10 km d'ici à vol d'oiseau. Enfin, un peu plus d'Auvergne, mais bref, 15. C'est là qu'on les récupère, on les étend. On va choisir chaque morceau qu'on coupe pièce par pièce à la main, donc au cutter. Ensuite, c'est nettoyé par le personnel d'entreprise d'insertion sociale détaché chez nous, qui nettoie à la main avec des lessives vertes. Enfin, c'est du gros plastique, quoi. C'est ça, c'est du plastique. La bâche. Ensuite, on presse, c'est-à-dire qu'on coupe avec une grosse machine de presse que vous connaissez sûrement parce que vous êtes dans le monde de la mode, donc c'est un gros cutter géant qui est posé sur une presse. Ensuite, on presse et ça part dans différents ateliers de confection. On a nous-mêmes notre petit atelier de confection qu'on est en train d'agrandir avec 3 couturiers maroquiniers. Et on travaille avec 7 ateliers indépendants qui sont tous situés en France, majoritairement en région parisienne. Et 4 d'entre eux sont des ESAT, établissements et services d'aide par le travail, qui accueillent des personnes en situation de handicap. Ensuite, les matières, les produits finis reviennent chez nous. On fait le contrôle qualité, puisqu'en fait, il y a quelque chose aussi qui nous anime, qui est considérable en fait, pour avancer, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aimer ce qu'on fait, c'est évident. Mais par contre, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on fasse des sacs qui soient beaux. On n'a pas envie de faire de la récup pour faire de la récup. Preuve en est, on a 2 marchés. On a le marché du B2B et le marché du B2C. Donc B2C, c'est vous, c'est le grand public. On a eu l'occasion de faire 3 lancements au Printemps Design à Beaubourg, de vendre au Citadium au printemps. Donc l'idée, c'est pas de faire de la récup pour dire qu'on fait différemment, c'est de faire des pièces dont on est fier, qui soient belles, qu'on a envie que les gens portent, et on n'a pas envie que ça soit criant, que ça soit de la récup. Preuve en est, ce sac, par exemple, il est fait par un atelier qui, enfin, tous nos produits sont faits en piqué retourné. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler la pièce comme si la matière qu'on récupérait était une matière nouvelle et noble. Ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, j'aime bien cette phrase de Thierry Touvenot, qui était à l'époque secrétaire général du WWF, il y a une dizaine d'années. Il disait, on ne fait pas la révolution avec du concept, mais avec du désir. On ne fait pas la révolution avec du concept, mais avec du désir. Moi, j'aime beaucoup cette phrase, et elle est à vous, parce que c'est vous qui faites la mode de demain. Voilà, donc on récupère les matières, on fait le contrôle qualité, et ensuite, ça part dans différents ateliers pour être confectionné. Alors, moi, je ne vois pas très bien là, donc je pars par là. Ah, évidemment, j'ai fait le mauvais côté. Donc 2 marchés, marché du grand public, on a notre boutique en ligne sur notre Bilhomme Store, mais on travaille aussi beaucoup en B2B. La première à nous avoir fait confiance, c'est symbolique, B2B, c'est Agnès B. Et en fait, Agnès B, elle nous a dit, vous faites des sacs, mais moi aussi, donc récupérez toutes nos bâches qui sont au-dessus de nos boutiques, mais par contre, essayez de réinterpréter un de nos modèles phares. Donc on a réinterprété un de ces cabas, et qui a été vendu dans toutes ces boutiques du monde entier, qui a défilé au Palais de Tokyo. Et on a travaillé plus de 5 collections avec Agnès B au fil de l'eau, de ces bâches qui étaient sur ces façades d'immeubles en travaux. Autre exemple, donc toujours sur la bâche de Coppels, on a fait ces petites trousses hein, qui ont été offertes à leurs VIP. On travaille quand même pas mal en B2B et ce qui est important, c'est que ça nous permet de travailler sur du volume. Et en B2B, les entreprises se servent de ce qu'on fait pour leur revente, pour leur dotation VIP, pour leur dotation journaliste, beaucoup, beaucoup de dotations presse, personnelles, etc. Un autre exemple, le bon marché. Pour toutes ces bâches, à l'époque où le bon marché fêtait ses 160 ans, toutes les petites bâches intérieures, on les a transformées en trousses qui ont été revendues au sein du bon marché. Ça va sans dire, chaque pièce est unique, puisque les bâches sont imprimées, et en fait, on va couper des morceaux. Il n'y a pas une pièce qui se ressemble. Dernier exemple avec de la bâche, Undies. Alors encore un autre usage. On a travaillé ces bâches. D'ailleurs, j'en profite pour relever un petit point. L'upcycling, c'est cher. Ce sac, par exemple, non, parce que c'est beaucoup de temps. Pour faire ce sac, il faut plus d'une heure et demie. Bah, vous faites le calcul entre un salaire chargé moyenne 20 euros de l'heure en France et un salaire chinois à 25 centimes, c'est évidemment pas pareil. Et bah, quand ce sac demande de 2 heures, 1 heure et demie de travail, bah, il demande 1 heure et demie de travail. Voilà, que ce soit en Chine ou en France, ça demande du temps. Donc Undies ne pouvait pas se permettre de revendre ses sacs 50 euros en magasin. Par contre, ils s'en sont servis comme panier. Donc ça servait de panier dans les boutiques d'Undies pour panier de shopping. Un exemple, puisqu'on est quand même vachement dans le monde du sport, là c'est une bâche. Vous imaginez, là on a 1000 mètres carrés de bâche d'un terrain de tennis en Alsace qui s'est effondré. Ils ne pouvaient pas la réutiliser, elle était trop abîmée, donc on l'a réinterprétée en sac de sport, sac de tennis. Et j'ai ici le sac qui a été fait dans les toiles du central de Roland-Garros, à l'époque où il était refait. Donc en fait, ce qui est amusant aussi, c'est qu'avec les pièces qu'on travaille, on récupère aussi des matières qui ont une histoire folle, qui sont hyper symboliques. Il n'y a encore que des pièces uniques et surtout hyper numérotées. Donc, collection particulière qu'on a faite pour la BNP et Roland-Garros. J'ai encore du temps. Il me reste 6 minutes. Ok, je me dépêche. Je vous montre quelques exemples. On travaille la bâche, mais on peut bien évidemment travailler le tissu qui offre aussi d'ailleurs beaucoup de champs de possibles. Là, par exemple, vous êtes au Prince de Galles. On a récupéré tous les rideaux et les tissus tendus en toile de Jouy. On a fait une collection numérotée. Et surtout, on s'est amusé à calculer les kilométrages. Entre le moment où on a récupéré les rideaux, arrivé chez nous, reparti au Prince de Galles, offert au VIP du Prince de Galles, les sacs avaient fait 14 kilomètres, puisque les sacs avaient été faits au cœur de Paris. Toujours dans l'événementiel, un tissu incroyable, on a récupéré 2000 mètres carrés de ce furushiki géant Kenzo qui était installé devant la fondation Louis Vuitton. Encore quelques exemples, mais j'ai bientôt fini. Alors, on a aussi ce qu'on appelle, nous, nos sagas. Air France, on a commencé avec les toiles publicitaires géantes. Bon, vous avez compris, je ne vous l'ai pas remontré, mais Air France communique beaucoup sur des toiles publicitaires géantes, surtout en entrée d'aéroport. Et puis, un jour, ils nous ont appelés en nous disant, on a nos gilets de sauvetage qui ont une durée de vie limitée à 3 ans, parce que c'est un outil de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut en faire? On a fait ces petites trousses qui sont revendues sur leur site et sur le nôtre. Et puis, alors ça, c'est très, très intéressant en termes d'économie circulaire. On va parler d'économie circulaire. Un gilet de sauvetage, ça coûte quelques dizaines d'euros à fabriquer. Et un gilet de sauvetage à détruire, ça coûte quelques euros. C'est un gros camion qui vient, qui récupère les gilets, qui les enfouit, qui les brûle. Ça coûte de l'argent. De toute façon, il faut bien que quelqu'un paye cette prestation. Nous, on les récupère, on va les chercher, on les transforme en petites trousses, parce que c'est petit. Air France les revend sur sa boutique en ligne. Ils ont fait un calcul qui est passionnant parce que, alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes flux financiers, mais la revente, le bénéfice de ces trousses qui sont revendues sur leur site internet leur permet de racheter des nouveaux gilets à zéro. C'est-à-dire qu'un gilet de sauvetage chez Air France, quand ils revendent les trousses, bon, vu que Air France en ce moment est un petit peu en difficulté, cette collection arrêtée, elle n'en vend que chez nous pour le moment. Mais à l'époque, ça leur permettait d'acheter les gilets à zéro. C'est quand même important parce que l'économie circulaire, ce n'est pas forcément une économie coûteuse. Mais c'est une économie qu'on retrouve après. Ce qu'on est en train de prouver, c'est que les déchets des uns deviennent les matières premières des autres. Bon, on connaît bien cette formule. Mais nous, on essaye de prouver aux marques que leurs déchets sont leurs propres matières premières. En fait, on confectionne l'héritage des marques à travers leurs propres ressources. On a continué avec les housses de siège et on a eu la chance de faire un truc extraordinaire. C'est récupérer les housses du siège du dernier Concorde qui avait été dessiné par André Putman, que vous connaissez, j'imagine. Et sinon, courez voir ce que faisait cette très grande dame du design. Et donc là, c'était des housses de siège en piqué magnifique coton et qu'on a réinterprété en trousses, collection de trousses. Voilà, il y a 1000 exemples en fait. On a récupéré donc plus d'une vingtaine de matières. À aujourd'hui, en 15 ans, on a travaillé à peu près 280 000 pièces uniques originales. On a recyclé, enfin upcyclé plus de 50 000 mètres carrés de matière, ce qui représente une vingtaine de tonnes. Et surtout, on est donc 10 salariés et nos 7 ateliers partenaires représentent une quarantaine de personnes. Donc c'est vraiment une dynamique qui ne peut que continuer, j'espère, et que j'espère vous vous approprierez. Voilà.
Merci beaucoup, Hélène. Et Sakina, c'est un grand plaisir de vous entendre. Merci d'avoir un petit peu condensé parce qu'on a un petit peu de retard, mais je voulais surtout que les élèves ou les profs, les encadrants ou n'importe qui dans la salle puissent quand même profiter de votre présence pour vous poser quelques questions. Donc on a du temps pour 2-3 questions qu'on peut regrouper. Si vous en avez à l'une ou l'autre de nos interlocutrices. Sur la démarche, sur voilà, est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est des choix, qu'est-ce que ça engage ces choix par rapport dans cet univers concurrentiel malgré tout, est-ce que quelqu'un a une question, quelle qu'elle soit. Mais je laisse quand même l'option au cas où certains en ont. Oui ? Tiens, je vais vous donner ça, te donner ça.
Ma question, c'était par rapport à la marque
Bilum.
Les sacs ou même tous les différents accessoires que vous faites, est-ce que vous faites les designs avant d'avoir la matière ou après ?
C'est une très bonne question parce qu'en fait, du coup, je vais répondre à une autre question que vous n'avez pas posée. C'est que c'est très compliqué de travailler de la matière qui a déjà vécu parce qu'elle est pleine de surprises. Un exemple, on a eu l'occasion, on travaille beaucoup évidemment la voile de bateau, ça se fait depuis toujours dans les ports. Le Club Med nous a appelé pour qu'on récupère les toiles du Club Med 5. Et on avait récupéré pour une course des voiles de bateau, donc magnifique, on fait une collection superbe. On nettoie la voile qui s'est délitée parce que le sel avait tellement gratté la voile que la voile tenait. Et une fois que l'eau douce a gratté le sel, la voile était mais morte. Donc en fait, c'est compliqué parce que déjà, les matières vivent et réagissent différemment. Et du coup, pour vous répondre, nous, on a fait le parti. C'est pour ça que je trouve qu'on se complète parfaitement, Sakina et moi. Sakina est vraiment une créatrice, designer, enfin une très grande dame de la mode. Nous, on est beaucoup plus humble par rapport à ça. On fait des pièces qui sont ultra simples. Ce sac, c'est un sac que j'ai vaguement dessiné, croqueté à partir de 3 sacs que j'avais chinés. Donc c'est une inspiration de sac de voyage, d'un sac de médecin, enfin bref. En revanche, là, on commence à travailler avec des designers et des stylistes. Et là, j'ai un sac avec moi qui a été dessiné par Stéphane Hanné, qui est un styliste designer que j'aime beaucoup, beaucoup. Et honnêtement, le sac, il est simple, mais il est ultra efficace. Donc, on commence à travailler avec des designers et des stylistes. Et aussi, ouais, là, vous avez une toile de... C'est de la toile de bleu de travail d'un côté, et de l'autre, c'est une toile d'ameublement de luxe. Et en dessous, c'est de la bâche. Et c'est du coton piqué en haut. Et puis il y a des petites poignées qui permettent de tenir le sac. Enfin, le sac est vraiment hyper efficace. J'aurais jamais pu dessiner ça. Ce mec est brillant. Par contre, ce qui est vraiment marrant, c'est qu'on commence à travailler avec les designers. On travaille de plus en plus avec le luxe et avec des designers et les stylistes du luxe qui viennent chez nous pour voir les matières et pour un peu les appréhender. Ça, c'est passionnant.
Merci. Il y avait une autre question dans le fond, je crois. Peut-être pas. Oui, dans ce fond-là. Alors, une ici, je vais prendre les deux en même temps.
Bonjour. En fait, je me posais une question parce que la question de l'écologie dans l'industrie, elle commence à peine à être prise en compte. Les mesures, elles arrivent, mais c'est assez lent. Donc, je voulais savoir, comme vous avez débuté, en fait, vous êtes un peu des précurseurs dans le milieu. Est-ce que vous vous sentez soutenu ? Est-ce que vous vous êtes senti soutenu quand vous avez commencé vos marques ?
En fait, merci beaucoup pour ta question. Moi, je pense qu'il y a eu... moi, je me suis sentie soutenue par des personnes et je ne me suis pas soutenue par d'autres. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, il n'y a pas de... je sais que, en tant que marque de mode, Quand je rencontrais, que ce soit mes fédérations de tutelle ou même des magasins ou des multimarques, je me souviendrai toujours comment je me battais pour faire passer l'idée, parce que beaucoup me disaient mais pourquoi vous voulez vous prendre la tête à faire de la mode, enfin la mode, voilà, elle doit être portable et elle doit être portable et désirable. Point barre. Mais ce qui m'a, moi je trouve que la leçon que j'en tire, et ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de partager avec vous. Quand vous avez une idée, il ne faut pas lâcher l'affaire. Parce que n'importe qui, vous savez pas ce qu'elle va devenir. Vous savez pas, quand vous êtes porté par quelque chose qui vous dépasse, vous savez pas ce que ça va devenir. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai démarré, jamais j'aurais pensé qu'aujourd'hui, je me retrouverais à aller dans un magasin et où ben il y a beaucoup de produits de mode durable, de mode éthique. Jamais j'aurais pensé ça. Et je pense, enfin, j'avais fait un article dans Libé, j'avais fait une tribune et je l'avais appelé mal fringue, mal bouffe, même combat. C'est parti d'un truc, c'était que tout d'un coup, moi je me promène dans la rue, il y a plein de naturalia, quoi. Et je me suis dit, mais putain, mais ça n'existait pas avant. Enfin, moi j'allais chez à la vie claire, quoi. Enfin, voilà, quand tu manges pas de viande, quand tu machin, voilà, quand t'es une activiste aussi de la bouffe, ben t'es mal, quoi. Et j'allais à la vie claire ou au Nouveau Robinson à Montreuil. Et enfin bon, bref. Et donc du coup, je me suis dit, mais là, tout d'un coup, il y a quelques années, ben il y a plein de magasins, il y a plein de naturalia, on a bio, c'est bon. Et je me suis dit, ben, ça va être bientôt, il faut que ce soit la même chose pour la mode. Il faut qu'à un moment donné, ce questionnement que moi j'ai eu par rapport à la composition de tout ce qu'il y a dans ce qu'on mange, ben, il faut qu'on ait absolument la même chose, une vraie traçabilité dans le vêtement et aussi dans les magasins. Voilà, donc moi je rêve à ça maintenant, c'est mon prochain rêve, mais vraiment ne lâchez pas le morceau si vous avez un rêve, parce que c'est peut-être possible.
Merci. Qu'on démocratise cette mode effectivement éclairée.
Du coup, je vais rajouter ma part. En tout cas, je suis d'accord, hyper d'accord avec, si vous avez un rêve, ne le lâchez pas. J'irai même aussi, si vous avez une idée, ne la lâchez pas, même si elle est pionnière ou avant-gardiste ou qu'elle semble bête. Moi aussi, pareil, je me suis sentie très soutenue et pas du tout soutenue. Donc déjà, la première chose, c'est que si vous vous lancez, ne lâchez pas et entourez-vous. Parce qu'il y a des moments qui sont vraiment particulièrement difficiles. Et après, il y a des soutiens hyper forts. Il y a justement Isabelle Kay qui a monté l'Ethical Fashion Show où elle faisait l'éclairage sur ces jeunes marques qui démarraient. Enfin, il y avait, à l'époque, il y avait Veja et Kiok. Enfin, il y avait des marques qui aujourd'hui ont explosé, mais qui à l'époque étaient toutes. C'était le début du début, quoi. Il en reste quatre. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens. Moi, je me suis fait traiter de folle 1000 fois. Mais par contre, il suffit de 1000 personnes qui vous traitent de folle, mais 3 qui trouvent ça génial, et puis qui vous suivent, et puis qui vous donnent un coup de main pour que vous rencontriez la bonne personne qui va vous permettre d'aller de rencontrer l'acheteur du Printemps Design à Beaubourg qui dit « c'est génial votre truc, je vous suis », qui fasse que, en fait, ça fait un peu comme ça toujours. Voilà, et le dernier truc que je voulais dire, c'est... non, ben voilà, je crois que... Okay.
Et la toute dernière question dans le fond, vas-y, je pense que tu as un micro.
Oui, j'ai le micro. Donc ma question c'était, comment ça se passe au niveau du contact des marques pour récupérer leurs déchets textiles? Aussi, ils ne peuvent pas nous faire payer leurs déchets aussi, parce que si on utilise leurs déchets, en vrai on les aide, parce que je crois que quand ils ont plein de déchets, bah, ils doivent payer quelque chose pour les faire détruire. Comment ça se passe à ce niveau-là?
Alors nous, on part d'un principe, c'est qu'on n'achète aucun déchet. Donc effectivement, au tout début, surtout quand on n'était pas du tout connu, il m'est arrivé de voir des très très grandes marques et de leur expliquer l'idée, de leur dire on peut récupérer votre bâche pour en faire des sacs à l'époque pour nos collections, grand public. Et ils nous disaient, ok, combien tu l'achètes? Je dis, mais je sais pas, vous achetez une matière que vous allez devoir détruire. Heureusement, au bout de 15 ans, là, on a fait un peu de chemin, surtout en B2B. Et aujourd'hui, bien évidemment, on n'achète aucune matière. La seule matière qu'on a achetée, c'est les droits d'image de la bâche de Claude Monet, l'expo de Claude Monet au Grand Palais, pour pouvoir la remettre sur un leaflet. On a dû payer des droits d'image au musée de Saint-Pétersbourg à qui appartenait le tableau, c'est tout. Mais sinon, on n'achète pas de matière. Mais par contre, c'est vrai que vous avez raison, ça peut leur coûter beaucoup d'argent. On l'a vu avec mon exemplaire France. Aujourd'hui, on n'en est pas là. C'est-à-dire que nous, on ne demande pas d'argent aux marques pour récupérer leur matière. Mais par contre, on n'achète pas de matière. Ça, c'est clair et net.
Alors, nous, alors, dans notre modèle économique, quand on fait des prix du vêtement, ben, on met un tout. Et on s'est dit, alors, nous, on récupère les tissus de chez Kering depuis donc 2010, donc depuis 11 ans. Et on s'est dit, évidemment, les tissus, ils nous les donnent, mais on s'est dit, on sait pas, enfin, il faut pas rêver, quoi. Peut-être qu'un jour ils vont se, parce qu'on ne sait pas. Hein, là aujourd'hui, tout le monde se pose des questions justement avec cette loi AGEC, avec toutes ces difficultés. Et ben nous, dans notre prix, on a mis, je crois, 2 ou 3 euros en se disant que c'est ce qu'on risque, c'est ce qu'on va négocier avec elles, parce que bon, faut pas rêver. Peut-être que un jour ils vont nous dire il faut payer. Et surtout, on l'a fait parce qu'on s'est dit que si notre cliente tout d'un coup c'est 3 euros. Ça paraît pas beaucoup, mais quand tu le multiplies avec etc., etc., mais le trop prix risque d'augmenter d'un coup. Donc on a fait ça pour avoir psychologiquement de ne pas perturber et troubler notre client en se disant bon, on sait jamais. Voilà. Donc on sait pas si ça va. Enfin, nous on a l'impression que ça peut changer. On n'est pas loin. Mais en même temps, on a encore beaucoup d'années à travailler comme ça. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'alliage, c'est l'alliance. Ce que disait Hélène sur cette notion qu'effectivement, ça coûte de brûler, c'est sûr. Ça leur coûte énormément par an. Et donc, du coup, il faut que leur faire comprendre, et en général, ça se passe bien, que finalement, c'est une alliance complémentaire et finalement intéressante pour les deux parties.
Oui, pardon, du coup, j'ai dit on n'achète pas de matière à une petite c'est dit quand même, c'est que on n'achète pas de matière aux entreprises qui ont des matières qui ont vécu et qui doivent éliminer, évidemment. En revanche, on commence à en acheter, et effectivement, là, je rejoins Sakina, sur tout ce qui est tissu, ce qu'on appelle les tissus dormants. Et là, effectivement, tissus dormants, il y a une très belle petite marque qui vient d'ouvrir qui s'appelle Uptrade et qui revend des tissus dormants. Donc j'imagine que vous les connaissez, sinon allez voir pour vos créations. Mais et Uptrade, vous avez accès avec Uptrade à des tissus magnifiques, des laines piquées, des laines magnifiques qui normalement valent 25 € le mètre carré et que vous allez avoir à 5-6 €. Là, c'est normal de les acheter. Ce sont des tissus neufs, mais dormants. Donc je mets quand même ce bémol, évidemment.
Très bien. Un grand merci, Sakina, Hélène. C'est la présentation de vos deux marques, Sakina Emsa et Bilhomme.